Paulhache de Jérôme Vuittenet, chapitre 27. 5h50. Le réveil strident de Thomas Flesque déchira le silence et ses tympans. Sa main se tendit machinalement vers l'objet maudit et ses doigts le tâtèrent pour trouver enfin le bouton qui cessa le supplice. Son épouse n'avait pas bougé. Elle semblait continuer de dormir, tournée vers le côté opposé du lit. Elle ne travaillait pas ce matin. Vendeuse à mi-temps, ses horaires changeaient d'un jour à l'autre. Thomas l'observa dans la pénombre, essayant de deviner si elle dormait vraiment. Au rythme de sa respiration, il supposa que non, mais n'osa pas la toucher et se leva en silence et sans allumer la lumière. La veille, ils avaient eu des mots. Toujours les mêmes et sans plus de résultats concrets. Il ne faisait plus attention à elle, il passait le plus clair de son temps au bureau et le peu qui restait dans son association. Il était président d'un club d'athlétisme amateur et la plupart de ses week-ends étaient envahis par des entraînements ou des compétitions amicales. Elle n'avait pas tort, mais lui n'avait pas de solution. Son équilibre personnel en dépendait. En trouvant ce nouvel emploi chez Automobile Composant, il espérait avoir initié une nouvelle période de sa vie, plus tranquille, moins stressante. Son poste précédent, comptable dans une PME au bord de la faillite et obligé de gruger le fisc pour se tenir à flot, l'avait maintenu pendant 5 années dans un état d'anxiété permanente qui se manifestait par des malaises vagaux inopinés et une absence d'appétit quasi totale. Il avait perdu du poids, ses cheveux se clairsemaient et ses ongles étaient dévorés. Sa fille lui avait demandé un jour, alors qu'il l'accompagnait chez sa nounou en voiture avant de partir au travail, ce qui se passerait s'il avait un malaise en conduisant. Il l'avait regardée dans le rétro, surpris par la pertinence de sa remarque, et des images étaient passées devant ses yeux en accéléré, comme dans ces films où le héros se voit mourir. Il vit sa fille hurler « Papa !» dans une voiture qui faisait des tonneaux avant de s'immobiliser au creux d'un ravin. Il en eut des sueurs froides et un haut-le-cœur. Il donna sa démission le jour même. Pendant la période de chômage qui suivit, pour ne pas rester inactif, il prit cette responsabilité de président à l'association sportive, pour une seule saison, pensait-il, mais personne ne souhaitait prendre la relève, alors il continua. Le sport lui donnait confiance en lui, le détendait et améliorait sa santé. Les malaises s'espacèrent, puis disparurent. Il reprit quelques kilos et retrouva le sourire. Mais le sport agissait comme une drogue dont il ne pouvait maintenant plus se passer. Les semaines où, pour une raison ou pour une autre, il se trouvait dans l'incapacité de courir, les symptômes revenaient, des étourdissements d'abord, puis le cœur qui se mettait à battre irrégulièrement. 6 heures. Il chaussa ses baskets et enfila son survêtement. Avant le petit déjeuner, 1 heure de footing lui donnait la force d'entamer la journée. Le soleil se levait à peine et il faisait encore frais. Les cuisines s'allumaient une à une dans les maisons tout au long de son parcours et quand il rentrait chez lui, il était parfaitement réveillé tandis que la plupart de ses semblables peinaient encore à ouvrir les paupières. En veillant à ne pas réveiller sa femme et sa fille, il prit sa douche et s'habilla en se regardant dans le miroir. Tout en se rasant, il plongea ses yeux dans son propre regard et s'interrogea profondément sur le sens de sa vie. Était-il condamné à rester longtemps sur ce poste de contrôleur de gestion qui ne lui plaisait pas? Quel événement dramatique, quelle maladie le pousserait cette fois à donner sa démission? Est-ce du courage, de l'abnégation ou de la bêtise que de jouer cette comédie chaque jour au bureau? À quel âge devient-on véritablement adulte et prend-on le contrôle de sa vie? Il se doutait que son épouse souhaitait un deuxième enfant et que c'était la cause cachée de toutes leurs disputes. Puisqu'elle savait qu'il ne pouvait envisager la chose dans cet état permanent de surmenage, elle s'attachait à lui faire lâcher prise, d'abord, avant de lui demander plus directement de faire un autre enfant. 7h30. Il termina son petit déjeuner, se brossa les dents et réajusta sa cravate devant la glace. Ses yeux étaient vides, cette fois. Il avait remis son masque professionnel et perdu une part de son humanité. Il était prêt pour aller travailler. Quand sa voiture quitta la cour, il ne vit pas l'ombre de son épouse qu'il observait par la fenêtre de sa chambre. Il arriva au bureau un peu avant 8 heures, d'un pas leste et en affichant son air déterminé habituel. Un homme l'attendait devant la porte de son bureau. Il ne le reconnut pas immédiatement. René Martinez l'attendait depuis quelques minutes. Il embauchait à 7h30, à l'atelier. Thomas Flesque le salua et engagea la conversation. « Vous voulez me voir ?»« Oui, » répondit simplement Martinez. Très bien, entrez dans mon bureau, dit Flesque en ouvrant la porte. Le chef d'atelier entra dans le bureau, mais vêtu de sa combinaison tachée de graisse, n'osa pas s'asseoir. Flesque ôta sa veste et posa son cartable sur le bureau en se demandant ce que lui voulait son interlocuteur. C'est à propos de la salle de réunion, dit Martinez. Ah ? S'étonna le contrôleur de gestion. Mais vous savez, pour les réservations, ce n'est pas moi qui... Non, ce n'est pas ça. Je voulais vous signaler un problème. Un problème ? De quel ordre ? De l'ordre du planning, répondit Martinez, dont le français était parfois approximatif. C'est-à-dire ? Je crois qu'il y a eu des erreurs d'estimation parce que la salle est toujours pleine. Toujours pleine ? Selon mes chiffres, elle continue d'être à moitié vide. D'ailleurs, je viens de passer devant, il n'y avait personne. Les chiffres, c'est une chose, mais moi, quand je veux la réserver, elle est toujours prise. Essayez de vous y prendre plus à l'avance. Je ne peux pas. D'habitude, les fournisseurs me téléphonent la veille ou le jour même, parce qu'ils sont dans le coin. Comment faisiez-vous avant ? Avant, on avait l'autre salle, la nôtre, dans notre bâtiment, mais maintenant elle sert au stockage. Et vous ne pouvez pas expliquer ça à vos fournisseurs ? J'ai déjà essayé. Et alors ? Ben, il continue de faire pareil qu'avant. Et votre directeur, il n'a pas de solution à vous proposer ? C'est qui ? C'est Gravard ? Oui. Qu'est-ce qu'il en dit, lui ? Il me dit de réserver la salle. Et vous le faites ? Elle est toujours prise, je vous dis. Et quand par chance j'ai réussi à la réserver, c'est JCC qui me fait dégager. JCC ? Jean-Clément Charles. Il a sans doute ses raisons. Il a ses raisons, Gravard a ses raisons, vous avez les vôtres, et moi j'ai des fournisseurs qui sont debout et avec des plans ou des catalogues, c'est pas facile. Et dans votre bureau ? Martinez esquissa un sourire gêné. J'en ai pas de bureau, je suis à l'atelier. Ah oui, c'est juste. Du coup, je fais comment ? Écoutez, je ne sais pas, je vais y réfléchir, mais pour moi, sur le papier, il n'y a pas de problème. La salle est encore largement disponible. Je ne peux pas retourner voir notre PDG en lui disant que la salle n'est pas plus occupée qu'avant, mais qu'il faut quand même réaménager une seconde salle. Ce n'est pas crédible. Bon. Je suis désolé. Flesque le raccompagna jusqu'à sa porte et lui souhaita une bonne journée. En revenant à son bureau, il s'assit sur son siège et contempla la photo de sa fille qu'il avait mise dans un cadre et posée sur son plan de travail. Elle avait 4 ans aujourd'hui. Il ne s'en souvenait pas.